Les gens, les hommes et les femmes ont beaucoup de certitudes. Nous avons beaucoup de certitudes. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est en avoir encore plus. Dès que l'incertitude est là, nous n'aimons pas trop ça. Par exemple, les gens s'assurent de plus en plus pour n'importe quoi. Même certains assurent leur chien au cas où il deviendrait malade, pour éviter de devoir payer le vétérinaire. Le marché des assurances en France représentait en 2011 260 milliards d'euros. Nous ne sommes pas prêts d'abandonner notre sécurité et nos certitudes. Sauf que cela n'est pas resté que dans le domaine séculier. Ce besoin de certitude et même rentrer dans l'Église. Des personnes proclament que nous avons beaucoup de certitudes en Dieu. Et c'est en partie vrai. Nous entendons de plus en plus de paroles étonnantes sur la bouche des chrétiens. Ou plutôt, je les appellerais de ceux qui fréquentent des églises évangéliques. Le terme « profession de foi » Le terme « sauvé » revient souvent dans la bouche de ces personnes. Parfois même, lors d'efforts d'annonce de l'Évangile, lors de concerts où on annonce l'Évangile, des gens sont prêts à accepter Christ et ils lèvent la main pour cela. Et souvent, nous remercions le Seigneur de les avoir sauvés. Pourtant, quelque chose cloche. Peut-on avoir la certitude d'être sauvé? Certaines personnes affirment même la doctrine suivante. Le chrétien qui accepte Christ, qui a porté du fruit visible dans sa vie, issu d'une repentance sincère, a une sécurité totale sur son salut. Qu'en pensez-vous? C'est une question auquel je n'attends pas de réponse. Au-delà de nos convictions, au-delà de ce que nous croyons ou pensons croire, d'ailleurs, nous sommes invités ce matin, comme tous les autres dimanches matins, à considérer ce que la parole a à nous dire et pas ce que nous avons, ce que nous croyons savoir ou ce que nous aimerions croire. Non. Plongeons nos regards dans ce que la parole a à nous dire. Seule celle-ci est digne de notre foi la plus totale. Je vous invite ce matin à découvrir une vérité difficile sur nous-mêmes. Je vous encourage à reconsidérer vos certitudes pour arpenter un sentier glorieux. Je vais prier avant de lire ce passage. Père éternel, tu vois que parfois, ta parole est sévère, ton jugement est sévère. Et Père, souvent nous préférons des passages où ton amour est immense et où ta grâce est surabondante. Et nous nous esquivons. Nous sommes les rois de l'esquive et nous te demandons pardon. Père éternel, touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs pour que nos vies soient enflammées pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je continue ma série sur Hébreux. Je vous invite à lire avec moi Hébreux 3, 1 jusqu'à 4, 17. C'est volontairement long et je le ferai en trois sections. Donc je commencerai par Hébreux 3, verset 1. À 6. Hébreux 3, versets 1 à 6. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Les auditeurs de cette lettre sont clairement des frères et sœurs. L'auteur leur rappelle ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent regarder. Ils sont, nous dit le texte au verset 1, participants de la vocation céleste, de l'appel céleste. C'est-à-dire, ils tiennent de ce que ses frères et sœurs gardent bien à l'esprit, que dans leur marche sur terre, ils ne doivent pas perdre leur assurance et leur fidélité au Christ. Toujours à nouveau, il est un rappel nécessaire pour ancrer dans leur vie et dans leur foi le pas que Dieu est venu faire à leur rencontre. Mais ce n'est pas tout. L'auteur leur demande de porter leurs pensées, de considérer au plus haut point ce que Jésus est en qualité d'apôtre et de grand prêtre de la foi. Sans doute la seule fois où Jésus est qualifié d'apôtre. Christ a la qualité d'apôtre en ce sens qu'il parle avec autorité au nom de Dieu et il le révèle aux hommes. Tandis que le grand prêtre se tient devant le Dieu saint au nom du peuple pour intercéder pour lui. Cette qualité sera largement décrite ultérieurement. Et ce statut de fils est encore supérieur à une icône de la foi juive, notamment Moïse, l'un des pères de la loi pour le juif de l'époque et pour cet auditeur, sans doute avec un arrière-plan judaïque. Et ce statut de fils est supérieur infiniment à celui de Moïse. Pourtant, pour les juifs, Moïse était leur grand-père. L'auteur continue donc de montrer que le fils est supérieur à tout, aux anges, mais aussi au fondement de leur foi. Moïse a été fidèle, nous dit le texte, dans son service pour le peuple, tandis que Christ l'a été comme constructeur du peuple de Dieu. Et ce peuple est comparé à une maison. Verset 6, la maison, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Vraiment intéressant. Christ est le constructeur de la maison et la maison, c'est nous. L'auteur donne des certitudes à ses auditeurs pour leur rappeler ce qu'ils sont en Christ. Et ce que Christ est, à savoir une nouvelle fois, une personne digne d'un grand honneur et digne de toute leur attention. Pourtant, il ne s'arrête pas seulement à des certitudes paisibles. Et c'est là que commence le carnage dans nos conceptions étriquées. L'auteur de l'Épître aux Hébreux conditionne notre statut de maison à quelque chose de fou. Si nous conservons, je vais relire le verset. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Il ne veut pas laisser son auditoire dans une certitude paisible qui pourrait les amener à se relâcher. Non, il ne le veut pas. Et c'est pour cela qu'il va continuer cet exposé en suivant. Ce matin, je pourrais vous dire que vous avez en tant qu'enfant de Dieu la certitude éternelle du salut, que vous êtes en route pour le ciel si vous avez mis votre confiance en lui, que vous êtes la maison de Dieu et que rien ne peut vous ravir de sa main. Et la Bible nous dit ces choses. Pourtant, À côté de ça, ce matin, je suis obligé, à la suite de l'auteur, de nous considérer comme des personnes bénéficiaires soumises à un grand risque, celui de ne pas rentrer dans le repos de Dieu. Étonnante et inquiétante exhortation que celui de ne pas rentrer dans le repos de Dieu. Vous avez eu souvent des certitudes dans votre vie chrétienne. L'auteur veut nous amener sur un autre chemin. Non un chemin balisé par des certitudes qui nous amènent à vivre une vie chrétienne qui n'en a que le nom, ou qui nous pousse à négliger notre relation personnelle avec Dieu pour nous consacrer à plein d'autres choses, ou qui nous pousserait à une vie médiocre et gâchée. Vous êtes peut-être dans une église depuis longtemps et pourtant la foi ne vous apporte plus grand-chose. Vous étiez rassuré par beaucoup de passages de la Bible qui vous qualifient d'enfant de Dieu. L'auteur ce matin ne veut pas vous rassurer. Il veut vous inquiéter. Vous inquiéter d'un sujet déterminant pour l'avenir. Et ce sujet, c'est votre repos éternel. Et pour illustrer son propos, l'auteur de l'Épître l'illustre par une histoire passée. Les ancêtres de ses auditeurs sont susceptibles d'être une illustration à son propos. Celle-ci vise une inquiétude salutaire. Je vous invite à continuer notre lecture. Chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs. C'est pas moi qui vous le dis, c'est l'auteur de l'Épître. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu. N'est-ce pas tout ce qui était sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité, de leur manque de foi. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après David, par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Josué leur avait effectivement donné le repos. Dieu ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il appuie sur le bouton pause de notre commande et revient en arrière sur le film de la vie des ancêtres de ses auditeurs. Il pourrait nous dire et s'adresser à nous de la manière suivante. J'aimerais que vous preniez conscience du danger. Du danger qui nous guette tous. Celui de ne pas rentrer dans le repos. Cet appel est pressant. Et la version Semeur rend très bien l'idée. C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Ne vous contentez pas d'entendre, mais considérez de tout votre cœur ce qui va être dit à propos de vos ancêtres. Il leur est arrivé quelque chose de très grave. Retour vers le passé. Le passage que cite l'auteur est tiré du psaume 95, 7 à 11, qui est quasiment cité mot pour mot. Le psalmiste rappelle l'incident des eaux de Meriba. Les Israélites, dans leur chemin après la sortie d'Égypte et après avoir traversé la mer Rouge de manière miraculeuse, après avoir été nourris par la manne venant du ciel, après avoir été nourris par des cailles venant du ciel aussi, le peuple se trouve dans un désert. Je fais un résumé. Et l'homme et l'eau commencent à manquer. Alors le peuple commence à chercher des coupables à cette situation. Et Moïse et Aaron sont pris à partie. Je vous lis le passage. « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel !» Référence à la révolte de Corée, où une partie du peuple est mort à cause de sa rébellion contre Moïse un peu avant. « Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert ? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère ? Ici, on ne peut rien semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, il n'y a même pas d'eau à boire. » L'auteur du psaume apporte une interprétation sévère sur ce cri des Israélites contre Moïse. Le peuple s'est endurci, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et révolté. Et ils ont voulu provoquer Dieu malgré ma présence et mes œuvres à leur côté pendant 40 ans. Dieu aurait pu parler de la manière suivante. C'est pourquoi j'en ai eu assez, vraiment assez de cette génération. J'ai signifié leur péché de cette manière, leur cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. J'ai donc fait le serment, j'ai fait le serment, suivant dans ma colère contre cette rébellion, qu'en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Cette sentence est terrible, car Dieu avait prévu une existence paisible pour cette génération. Il s'agissait de la paix que l'Éternel voulait leur donner dans le pays promis, en les libérant de tous les ennemis. Si celui-ci se montrait fidèle, quel gâchis énorme! Quand une situation difficile arrive dans nos vies, comment réagissons-nous? Sommes-nous prompts à chercher des coupables et à remettre la faute sur Dieu ou bien, au contraire, à considérer Dieu comme souverain sur ses épreuves? Et nous étant placés dans ses bras d'amour, suivant là où nous nous plaçons, nous voyons très vite à qui nous ressemblons. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'auteur ne veut pas que ce précédent arrive une nouvelle fois. Et son appel retentit, inquiétant, mais cette fois-ci, il vide ses auditeurs. Et si nous avons la foi que la parole de Dieu est aussi pour nous, cet appel est pour nous aujourd'hui. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Mais au contraire, encouragez-vous tous les jours comme aujourd'hui à considérer non plus Christ, à considérer non plus l'attrait trompeur du péché, mais Christ. Car c'est sans doute l'un des appels les plus graves. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Quelle découverte ce matin, et pendant mon étude chez moi, je voyais comme tout un pan de ma doctrine revisité. Non que celle-ci ait changé, car ce n'est pas le cas. Je reste totalement assuré de mon salut. Pourtant, je me mettais à comprendre que cette assurance du salut était basée non sur une assurance tout risque contre tout retour en arrière dans ma vie avec Dieu, mais au contraire, cette assurance du salut était intimement liée à mon attitude envers Dieu. La persévérance jusqu'au bout est donc le moyen utilisé par Dieu à la fin d'une vie pour mettre en lumière de manière définitive et totale le salut d'une personne. La persévérance, je répète, jusqu'au bout est donc le moyen utilisé par Dieu à la fin d'une vie pour mettre en lumière de manière définitive et totale le salut d'une personne. Mes certitudes étaient en train de s'effriter. J'avais basé ma vie sur un gentil « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » sans en jamais faire toute la portée. La question pour les chrétiens ne devrait pas être « comment puis-je être assuré de la vie éternelle ?» Et en quelque sorte, parce que c'est souvent juste derrière, d'échapper à l'enfer, mais bien plus de connaître l'exigence et la seigneurie de Dieu dans ma vie sur cette terre. Non, on pourrait dire, me dirait Dieu, dans mon cœur, je ne veux plus que tu aies des certitudes qui t'amènent à te relâcher et à vivre une vie médiocre. Non, je veux que tu aies une vie passionnée pour moi. Non, que tu deviennes parfait, car tu apparaîtras toujours avec tes forces et tes faiblesses. Pourtant, le manque de foi qui pourrait t'amener à reconsidérer ta position et la confiance que tu me portes est très grave. Non, ce n'est pas possible. Si tu es mon fils ou ma fille, tu auras des dispositions meilleures à mon encontre. Tu ne pourras avoir une attitude similaire de rébellion. Mais attention, ne te préoccupe plus de tes certitudes, mais vis avec l'incertitude qui te pousse à me considérer toujours comme le seul rocher solide capable de te préserver du mal. Tu comprendras alors toujours ton besoin de moi tout au long de ta vie et tu ne pourras te passer de moi. Sinon, tes certitudes te feront tomber. Et cela, nous le verrons ultérieurement encore. Sujet encore plus grave que celui d'aujourd'hui et ô combien important pour chacun d'entre nous. Les certitudes ne sont pas pour les chrétiens. Les certitudes sont pour des gens qui souhaitent se soulager la conscience de leur œuvre mauvaise. L'Éternel nous demande de prendre conscience de notre faiblesse, de notre incapacité pour que nous sachions toujours garder comme objectif de rester fermement attachés à Christ. La conséquence pour nos pères a été terrible. Dieu a fait le serment qu'il n'entrerait pas dans son repos. Verset 19. Nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur manque de foi. Le manque de foi, le suprême de tous les péchés dans cette rébellion contre Dieu. Le manque de confiance en Dieu remet en question toutes ces promesses pour moi. Le mot foi en grec est similaire à celui de croire, et ils ont la même racine. Le manque de foi est donc résumé de la manière suivante, le fait de ne pas croire en Christ. Et cela n'est pas la caractéristique de ceux qui conservent l'assurance et l'espérance du verset 6. L'esprit le pousse quand il ressent le danger imminent de ses auditeurs. Redoutons donc, chapitre 4, verset 1, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble rester en arrière. Cette phrase est terrible pour les apostats, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui semblaient chrétiennes, mais qui reviennent en arrière. Ces personnes qui n'ont pas persévéré jusqu'au bout, qui étaient à l'intérieur de l'Église, au bénéfice de ses promesses. Cette parole, cette promesse ne leur sert à rien, car ils ne sont pas restés unis à la foi de cette promesse. La promesse ne s'accomplit donc pas par une attitude entière, ne s'accomplit donc que par une attitude entière de soumission à Dieu et de confiance en celui-ci. Pourtant, enfin, un petit rayon de soleil semble apparaître dans ce vibrant avertissement. Verset 6. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Les premiers bénéficiaires de ces promesses n'ont pas accédé au repos promis. Par contre, Dieu fixe une nouvelle fois un jour, aujourd'hui, pour entrer dans ce repos. Mais de quel repos s'agit-il ? Pour mieux comprendre la question du repos, oui, il apparaît important de le reconsidérer à la lumière du repos juif, du sabbat juif. Le sabbat était un temps privilégié, signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, où le fidèle honorait Dieu, le célébrait, lui rendait un culte, délaissant les préoccupations habituelles, centrées sur sa subsistance et la réalisation de ses projets. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Nous sommes invités à adopter une attitude similaire, soit se tourner vers Dieu, chercher à lui plaire, le louer, contempler sa splendeur de sa personne et de toute son œuvre, et ainsi recevoir de lui quelque chose de la joie de son repos. Mais sans doute le plus étonnant parmi notre compréhension, c'est que nous croyons que ce jour du sabbat concerne souvent le dimanche et le culte. Pourtant, le « aujourd'hui » de notre passage, qui revient plusieurs fois, nous pousse à envisager ce jour comme un jour qui imprègne notre quotidien, qui ne se satisfait d'être plus cantonné à un jour de la semaine, mais qui imprègne notre vie quotidienne. La conclusion ne peut nous laisser indifférents. Donc, comme un jour qui serait acquis une bonne fois pour toutes, mais comme une attitude qui nous serait invitée à vivre tout au long de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est donc une incertitude confiante que nous sommes invités à vivre. Incertitude, car cet assurant du salut que nous avons ne nous sera totalement révélé qu'à la fin de notre vie, et que nous pourrons dire à la suite de l'apôtre Paul, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Le seul trophée, garder la foi, le seul trophée qui nous assure la vie éternelle. Cette incertitude confiante nous garde contre l'orgueil spirituel. Cette incertitude confiante nous place dans une perspective toujours renouvelée d'une juste persévérance dans laquelle nous sommes assurés d'être gardés si nous sommes réellement repentis. Car Dieu jugera les coupables. Mais comment fera-t-il le tri entre les vrais chrétiens et ceux qui n'en sont que le nom? Je vous invite à lire les deux derniers versets de notre passage, versets 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Cette exhortation clôture de la plus belle manière l'exhortation de notre auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous aurions pu nous demander comment Dieu pouvait faire la différence entre les chrétiens, ou du moins ceux qui prétendent l'être, et les autres. Ce juge n'est rien d'autre que la parole, celle qui ne s'arrête pas aux carapaces que nous avons érigées devant les autres, celle qui découvre tout ce que nous voulons, ce qui est caché et par lequel nous ne sommes pas fiers, celle qui juge toutes nos motivations et nos sentiments, nos pensées. Jésus sera sans appel dans son application de sa loi. Toujours à nouveau, il donnera une dimension plus personnelle à cette loi et mettra à nu l'hypocrisie. Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cette parole de Jésus est déroutante et elle exprime avec clarté notre passage. Bien souvent, nous aimons dire que nous avons fait telle ou telle chose, que nous avons réussi à faire tel ou tel acte de justice. Pourtant, Jésus nous dit, tu vas arrêter de t'en tenir à la loi de manière stricte et légaliste, mais tu vas aller plus loin. Tu vas remonter dans tes pensées et détruire les hypocrisies que tu as conçues et que je démasque totalement par ma parole. Nous pouvons cacher nos vraies vies, nos vies, celles que nous avons chez nous, avec nos proches, dans notre travail, nous-mêmes à l'intérieur de nous. Toutefois, une chose est sûre, c'est que si nous manquons de foi et si nous ne considérons pas Dieu dans ses promesses à notre encontre, la parole saura être le révélateur du fond de notre cœur. Cette parole de Dieu saura pénétrer au-delà de nos façades, au-delà de nos masques, pour aller tout droit au cœur pour juger ce qui est de toute évidence refoulé au fond de nous-mêmes, à savoir les sentiments et les pensées de nos cœurs. C'est alors que nous expérimenterons, comme Adam, la nudité, une nudité où tout est dévoilé et découvert. Ne restons jamais dans cette situation. Les certitudes, les idées reçues que nous avons ne doivent jamais être des sujets pour nous faire tomber. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est sans appel. Des personnes qui faisaient l'objet d'une promesse immense ne sont pas entrées dans le repos que Dieu avait prévu pour eux à cause de leur incrédulité et de leur manque de foi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous êtes peut-être ce matin bien assis sur votre siège et vous êtes bien habillé pour venir au culte. Les gens, et même peut-être des gens de l'Église, pensent que vous êtes chrétien. Pourtant, peut-être, parmi vous, des gens ont substitué l'Église comme un lieu où nous pourrions vivre une communion fraternelle sans forcément expérimenter Dieu. Je me rappellerai toujours d'une personne dans l'Église ici, il y a assez longtemps, que personne ne connaît, du moins quelques-uns. Cette personne me disait que la clé dans sa démarche de venir à l'Église était le besoin de la fraternité. Devant un tel propos, je venais juste d'arriver à l'Église. J'ai failli tomber à la renverse, restant sans voix. Cette parole n'avait pas compris ce que Dieu voulait. Vous savez au fond de nous-mêmes, vous savez au fond peut-être de vous-même que quelque chose ne tourne pas rond. Mais vous seul peut-être le savez. On vous répète parfois que si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, c'est suffisant pour aller au ciel et avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et votre conception de la vie chrétienne n'est pas très engageante. Pour vous, au final, c'est pas très dur d'être un évangélique, d'accepter Christ dans sa vie. Il suffit juste d'avoir l'assurance de son salut et ça y est, vous êtes sauvé. Et vous êtes en route pour le ciel, sans passer par le besoin de vivre sur la terre une vie où Jésus-Christ, celui que nous proclamons comme Seigneur de nos vies, est glorifié par notre comportement. Enfin, heureusement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient rétablir la vérité, et non la pseudo-vérité que nous nous sommes constitués. En effet, l'auteur nous parle d'une réalité que nous, chrétiens évangéliques, nous avons trop souvent oubliée. La réalité d'un salut en cours d'accomplissement. Les passages sont multiples et je vais vous en citer quelques-uns. 1 Pierre 1, 5. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Marc 13, 13. Tout le monde vous haïra, dit Jésus, à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Apocalypse 13, 9 et 10. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Certes, lors de notre espérance, lors de notre repentance, le Saint-Esprit vient en nous et nous naissons à une vie nouvelle. Pourtant, le révélateur de cette vie nouvelle intérieure, on pourrait dire en quelque sorte le fruit ultime de cette repentance que nous avons acquis, qui est définitive, certes, ce fruit révélateur est notre persévérance jusqu'au bout. Ce matin, nous sommes invités à considérer une nouvelle fois ce jour comme aujourd'hui et prendre conscience de cette incertitude confiante. Dieu désire nos vies complètement et jusqu'au bout. C'est ça, être chrétien. Seulement ça. Je vous invite à prier. Père éternel, merci ce matin de nous avoir rappelé ta justice et ton immense salut pour nous. Tu vois que tu n'as pas abandonné ton peuple. Au contraire, tu as fait rentrer la génération d'après dans le pays. Aujourd'hui, dans cette église, c'est la même chose. Tu désires que toutes les personnes qui y sont puissent rentrer dans ce repos et ne se satisfassent pas d'une vie qui puisse s'arrêter dès que la foi semble reçue. Mais au contraire, Père éternel, donne-nous à chacun cette persévérance issue d'une repentance sincère. Tu désires vraiment par ta parole nous démasquer pour nous sauver. Et vraiment, ce matin, même si cette parole est difficile, nous te remercions de nous l'avoir laissée. Au nom de Christ. Amen.